Lorsque Grandet revient, à l'heure du dîner, il trouve sa femme et Eugénie en train d'admirer le coffret et le portrait de la mère de Charles.
« Mais c'est de l'or, du bon or !» crie Grandet en prenant la boîte. « Charles te l'a donné contre tes pièces, c'est cela? C'est une bonne affaire. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ma fille ?»«
Cette boîte n'est pas à moi, elle est à Charles et je dois la lui rendre, » répond Eugénie.
« Allons, ma femme, » dit soudain Grandet, « tu auras tout ce que tu voudras, et Eugénie aussi. Mais vis longtemps, ma femme, le médecin viendra vous soigner. »
Mais malgré tous les soins du médecin, Madame Grandet meurt. Eugénie devient encore plus triste. Son père se montre très bon avec elle. Il lui donne le bras pour descendre déjeuner. Il la regarde presque avec tendresse pendant des heures. Et il invite bien vite le notaire à venir dîner avec eux.
« Ma chère enfant, » dit Grandet à Eugénie, « tu es l'héritière de ta mère et nous devons parler de tout cela avec le notaire, n'est-ce pas, Cruchot ?»«
Mademoiselle, la fortune des Grandet vous appartient à vous et à votre père. Mais faire le partage devant la loi est très cher. Et votre père ne voudrait pas dépenser de l'argent pour... »«
Je ne comprends rien à tout ce que vous me dites, » répond Eugénie. « Que dois-je faire ?»
« Ma fille, si tu renonces à l'héritage de ta mère et si tu me fais confiance, cela ne coûtera rien. Je te donnerai tous les mois 100 francs.
Je ferai tout ce que vous voudrez, mon père. »
Pendant les années suivantes, Grandet, qui se sent vieillir, apprend à Eugénie les secrets de la maison. Elle possède maintenant toutes les clés, connaît toutes les propriétés de son père, reçoit elle-même l'argent des fermiers. À la fin de l'année 1827, son père meurt et Eugénie se retrouve toute seule dans cette grande maison. Heureusement, la grande Nanon est là et elle est plus une amie qu'une servante. Son vieil ami, le notaire, qui sent que la riche héritière épousera son neveu, le président, si Charles Grandet ne revient pas, vient la voir tous les jours pour lui offrir son aide. Mais Eugénie se sent bien seule. Son seul amour, qu'elle n'a vu que quelques jours, et à qui elle a donné son cœur entre deux baisers, est parti. Depuis, elle n'a jamais rien su de lui. Ses trésors, ce ne sont pas les 17 millions qu'elle possède maintenant, mais le coffret que Charles lui a laissé.
« Où donc est mon cousin ? »
demande-t-elle souvent à Nanon. « Il ne m'écrira donc pas une seule fois en 7 ans ?» Charles a fait fortune aux Indes en achetant et en vendant toutes sortes de marchandises et aussi des hommes. Et peu à peu, il a oublié sa cousine, le banc, le baiser. Eugénie n'est plus pour lui qu'une cousine à qui il doit 6 000 francs. En 1827, Charles possède 3 tonneaux de poudre d'or. Sur le bateau qui le ramène à Paris, il rencontre un gentilhomme, Monsieur d'Aubrion. Monsieur et Madame d'Aubrion n'ont pas de fortune, mais ils ont une fille assez laide qu'ils veulent marier. Ils promettent à Charles que, s'ils se marient avec leur fille, ils obtiendront du roi une autorisation qui lui permettra de porter le nom d'Aubrion. Charles est plein d'ambition et il accepte. Des Grassins, qui a appris son retour et son prochain mariage, vient le voir et lui demande de payer les dettes de son père. « Les affaires de mon père ne sont pas les miennes, » lui répond Charles. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie reçoit enfin une lettre de son cousin qui lui dit qu'il a fait fortune aux Indes et qu'il va se marier avec Mademoiselle d'Aubrion pour obtenir un titre et une position à la cour du roi. Et il lui envoie l'argent qu'elle lui avait donné. Eugénie est bien malheureuse en lisant cette lettre et elle pleure.
« Je vais dire adieu au monde et vivre pour Dieu seul, » dit-elle un jour au curé.
« Vous avez de grandes obligations, Eugénie. Vous êtes la mère des pauvres de Saumur. Vous leur donnez des vêtements et du bois en hiver. Vous enfermer dans un couvent serait égoïste. Vous devez conserver ce que Dieu vous a donné et vous marier.
Monsieur le curé, est-ce que ce serait un péché d'être mariée sans avoir de relation avec mon mari ? Je ne peux pas vous répondre, génie. Je vous laisse. »
Tous les soirs, depuis que son père est mort, les Cruchot viennent la voir. Ce soir-là, à la fin de la soirée, Eugénie se tourne vers le neveu et lui dit « Restez, monsieur le président. Je sais ce qui vous plaît en moi. Si vous promettez de ne jamais me rappeler les droits que le mariage vous donne sur moi, je serai votre femme. Mais avant de posséder ma main et ma fortune, vous devez faire quelque chose. Partez pour Paris à l'instant même. Allez chez monsieur des Grassins et payez toutes les dettes de mon oncle. Puis vous irez voir mon cousin. Vous lui donnerez ce coffret et vous lui direz que son honneur est sauf. » Le président va trouver Charles, lui annonce son mariage avec Eugénie et lui dit qu'elle a payé toutes les dettes de son oncle.
« Mais, dit Charles, ma cousine est donc riche? Elle avait près de 19 millions il y a 4 jours,
répond le président d'un air moqueur. Quelques jours plus tard, Eugénie se marie avec le président, mais son mari meurt peu après. Malgré les millions qu'elle possède, elle vit comme a toujours vécu la pauvre Eugénie Grandet. Elle n'allume le feu de sa chambre qu'au jour où son père le lui permettait. Elle est toujours habillée comme l'était sa mère. La maison de Saumur, maison sans soleil, triste, est l'image de sa vie. Mais elle n'est pas avare, comme l'était son père, et elle distribue sa fortune aux pauvres en créant des écoles, des bibliothèques, des hôpitaux. Telle est l'histoire de cette femme, qui, faite pour être épouse et mère, n'a ni mari, ni enfant, ni famille.